Que faut-il entendre par l'expression « la Bible est inspirée de Dieu » ? Comment faut-il comprendre ce phénomène de l'inspiration ? Ce sont là des questions importantes auxquelles il est important de répondre clairement et franchement. En effet, cette question de l'inspiration des Écritures a souvent été mal comprise. De nombreuses personnes considèrent encore que la Bible est inspirée dans le même sens que les œuvres d'un Shakespeare ou d'un Beethoven. Est-ce là ce que la Bible entend par « inspiration divine » ? C'est la question que nous lui posons. Toutefois, avant de l'entendre répondre à cette question, considérons ce livre que nous interrogeons ainsi. La plupart des livres de nos bibliothèques ont été rédigés par une seule personne. Avec la Bible, nous nous trouvons en présence d'une quarantaine de rédacteurs différents qui s'échelonnent sur une période de 1500 ans environ. C'est d'abord Moïse qui rédige les premières pages de la Bible, 15 siècles avant Jésus-Christ, puis plus tard les prophètes, parmi lesquels Ésaïe, Jérémie, Daniel, et plus tard encore les successeurs des prophètes, que sont les apôtres, Paul, Pierre, Jacques, jusqu'à Jean, dont l'Apocalypse, rédigé vers 90 après Jésus-Christ, clôture ce que nous connaissons dès lors comme la Sainte Bible. Ainsi, lorsque nous interrogeons la Bible sur le sujet de l'inspiration, c'est en réalité à ces différents rédacteurs que nous faisons appel. Et tandis que nous nous livrons à cette enquête, nous pourrons nous apercevoir avec quelle insistance ils se réclament tous de Dieu. Car si les hommes parlent d'inspiration des Écritures, ce n'est pas là un trait de leur imagination, mais c'est bien parce que les Écritures soulignent maintes et maintes fois cette caractéristique qui leur est propre. Le texte biblique le plus connu sans doute, et aussi le plus cité sur le sujet de l'inspiration, est un passage d'une lettre de l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 3 et le verset 16, dans lequel l'apôtre affirme explicitement que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce texte nous fournit deux indications précieuses. D'abord, sur le sens du mot « inspiration », et aussi sur l'étendue de l'inspiration. Dans la phrase « toute écriture est inspirée de Dieu », le mot grec que nous avons traduit par « inspiré de Dieu » signifie que les Écritures procèdent du souffle même de Dieu. De sorte que les Écritures sont, pourrions-nous dire, la matérialisation du souffle de Dieu. D'autre part, le texte dit que toute écriture est inspirée. Ceci exprime l'étendue de l'inspiration. Elle ne se limite pas à certains aspects ou à certaines portions de l'écriture, elle la touche entièrement. On peut donc parler d'inspiration plénière. Considérons un autre texte, tiré d'une lettre de l'apôtre Pierre cette fois. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En lisant ce texte, il faut se souvenir que le mot « prophétie » n'a pas dans la Bible le sens exclusif de prédiction de l'avenir. Un prophète est essentiellement un homme qui délivre un message de la part de Dieu. Ainsi, Moïse était un prophète, au même titre qu'Ésaïe. Mais tout ce que ces deux prophètes ont dit ne constitue pas uniquement des prédictions concernant l'avenir. La parole prophétique comprend donc toute l'Écriture, ou encore tous les oracles de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, dans le texte que nous venons de citer, tient à préciser qu'aucune prophétie de l'Écriture, aucun message, aucune doctrine n'a pour origine l'imagination de l'homme. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et cette dernière phrase définit parfaitement la nature et la fonction d'un prophète. Dans la première lettre de Pierre, le Nouveau Testament préserve deux lettres de l'apôtre. Nous avons quelques indications très intéressantes concernant l'attitude des prophètes ainsi poussés par l'Esprit de Dieu. Il est écrit, par exemple, qu'ils ne comprenaient pas toujours la portée de leurs écrits et qu'ils essayaient d'en percer le sens car ils pressentaient bien que les temps à venir devaient être glorieux. Il leur fut cependant révélé qu'ils devaient se contenter d'être les dispensateurs de ces connaissances pour les générations à venir. Ce texte nous montre en outre que ces hommes, choisis par Dieu, avaient conscience d'être les instruments de la divinité pour révéler aux hommes la volonté et le salut de leur Créateur. Au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres sont aussi des prophètes, poussés par l'Esprit de Dieu. Et ils en ont pleinement conscience. Écoutez par exemple l'apôtre Paul. Dans sa lettre aux Galates, il se présente comme apôtre non de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Après avoir exprimé son étonnement et sa profonde tristesse de voir les Galates se détourner si vite de l'évangile qu'il vient de leur annoncer, il ajoute « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Cette déclaration rejoint parfaitement le texte de Pierre cité plus haut, où il souligne qu'aucune prophétie ne procède d'une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans sa lettre à l'église des Corinthiens, où se manifestaient certains dons spirituels parmi les fidèles, l'apôtre Paul lance ce défi. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. De même, aux chrétiens de Thessalonique, à qui il donne de nombreuses exhortations, il écrira « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. » On ne pourrait être plus clair, ni plus définitif, pour affirmer que ce qu'on dit est de volonté divine. Nous avons parlé tout à l'heure d'inspiration plénière qui s'étend à toute l'Écriture, à toute la parole prophétique, à tous les oracles de Dieu. Nous allons voir à présent qu'on peut aussi parler d'inspiration verbale, c'est-à-dire celle qui touche non seulement le message en général, mais aussi tous les mots qui composent ce message. De nombreux textes nous permettent de soutenir cette affirmation. Nous n'en citerons que quelques-uns. Dieu avait dit à Moïse « Va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » La même promesse sera faite aux disciples par le Christ lui-même. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est aussi Jérémie à qui Dieu déclare « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Il n'a pas dit « Je mets mes pensées dans ton esprit. » Ézéchiel reçoit un ordre semblable. Tu leur diras « Mes paroles ». De même, les contemporains d'Ésaïe entendent le prophète s'écrier « Écoutez la parole de l'Éternel ». Il y a aussi le témoignage de David qui, à la fin de sa vie, déclare « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue ». Et ainsi de suite, à travers tout l'Ancien Testament, dans lequel on rencontre des dizaines et des dizaines de fois l'expression « Ainsi parle l'Éternel », précédant toute déclaration solennelle. Plus tard, beaucoup plus tard, mais toujours dans cette même atmosphère de révélation, Jésus dira dans une prière « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données ». Car c'est ainsi en effet que Jésus a formé ses disciples, et plus tard, il leur fera cette promesse. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et cette dernière phrase nous suggère ce que nous pourrions appeler le mécanisme de l'inspiration. Autrement dit, comment Dieu se servait des hommes pour révéler sa volonté au monde. Parce que nous avons parlé d'inspiration plénière et verbale, certains ennemis de la Bible ont dépeint les prophètes du Nouveau et de l'Ancien Testament comme des dictaphones vivants, comme des machines momentanément dépourvues de personnalité, de volonté propre, de lucidité et de conscience. Il suffit de lire la Bible pour se rendre compte que cette image de l'inspiration est totalement fausse, c'est une caricature voulue. En lisant le message des prophètes bibliques, et nous prenons encore le mot « prophète » dans son sens le plus vaste, nous nous rendons compte qu'un prophète est déjà préparé par Dieu lorsque celui-ci l'appelle. Nous dirions aujourd'hui qu'il était prédisposé. Nous constatons aussi que Dieu respecte et utilise même la personnalité, le caractère et le style de chaque rédacteur. Nous voyons aussi que l'inspiration se manifeste au moins dans deux domaines principaux. D'abord, celui de la révélation proprement dite, c'est-à-dire la communication de connaissances et de données que l'homme ignore et qu'il ne pourrait connaître de par lui-même. Par exemple, la volonté de Dieu à l'égard de l'homme, la nature de l'homme et sa destinée après la mort, etc. Puis il est clair que Dieu pousse aussi le prophète à écrire ce qu'il sait déjà, et s'il doit se documenter, il est guidé dans le choix des documents ou de ses sources d'informations. C'est ainsi que Jésus avait promis à ses disciples une mémoire infaillible des enseignements qu'il leur avait prodigués pendant près de 3 ans. De sorte que les écrits que nous ont laissés ces hommes de Dieu sont vraiment la parole de Dieu, les oracles de Dieu. Dieu a donc voulu parler aux hommes dans le langage des hommes. Et pour ce faire, il en a choisi quelques-uns qu'il a échelonnés sur quelques 1500 ans pour faire connaître au monde graduellement sa présence vivante, sa volonté et son salut. Et pour nous révéler son trésor, il l'a coulé dans un moule humain. Tout cela est-il donc si invraisemblable comme certains le pensent? S'il est facile de croire en un Dieu créateur, organisateur et orchestrateur de cet univers dans lequel nous nous mouvons, est-il si difficile de concevoir que ce Créateur ait voulu communiquer avec ses créatures pour leur dire le comment et le pourquoi de leur présence sur la terre? Ceux qui refusent de croire en l'inspiration des Écritures doivent logiquement considérer comme menteurs et imposteurs tous ceux qui se sont ainsi réclamés de l'autorité de Dieu, y compris Moïse, Jésus et les apôtres. Car nous l'avons vu, l'aide surnaturelle dont ont bénéficié les prophètes est un fait attesté dans presque toutes les pages de la Bible. Où ils ont menti, et il vaut mieux brûler ce monument de charlatanerie que composent leurs écrits, où ils ont dit la vérité, et dans ce cas, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui a des yeux pour lire, lise, et apprenne ce que Dieu attend de lui. Signalons en outre, brièvement, un fait que nous verrons plus amplement dans une prochaine étude, c'est l'harmonie parfaite qui existe dans toutes ces différentes parties de la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, un seul thème, un seul sujet, une seule espérance, une seule affirmation. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu et son Messie promis. Le Nouveau Testament révèle Dieu et son Christ manifestés. Réfléchissons aussi à la véracité et la précision historique de la Bible, sans cesse vérifiée par l'archéologie depuis que cette science existe. Aussi l'archéologue Charles Marston a-t-il voulu intituler son livre « La Bible a dit vrai ». Nous voulons terminer cette étude, trop brève hélas sur un sujet aussi riche, par une réflexion de l'écrivain français Jean-Jacques Rousseau sur la majesté des Écritures. Ces remarques s'ajoutent à la longue liste de témoignages recueillis auprès des plus grands hommes de science, de lettres ou d'État concernant le best-seller de tous les temps. Je vous avoue que la majesté des Écritures m'étonne, que la sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Voyez les livres des philosophes avec toute leur pompe, qu'ils sont petits près de celui-là. Se peut-il qu'un livre à la fois si sublime et si simple soit l'ouvrage des hommes ? Se peut-il que celui dont il a fait l'histoire ne soit qu'un homme lui-même? Est-ce là le ton d'un enthousiaste ou d'un ambitieux sectaire? Quelle douceur, quelle pureté dans ses mœurs! Quelle grâce touchante dans ses instructions! Quelle élévation dans ses maximes! Quelle profonde sagesse dans ses discours! Quelle présence d'esprit, quelle finesse et quelle justesse dans ses réponses! Quel empire sur ses passions! Où est l'homme? Où est le sage qui sait agir, souffrir et mourir sans faiblesse et sans ostentation? Dirons-nous que l'histoire de l'Évangile est inventée à plaisir? Mon ami, ce n'est pas ainsi qu'on invente. Et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-Christ. Au fond, c'est reculer la difficulté sans la détruire. Il serait plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce livre qu'il ne l'est qu'un seul en ait fourni le sujet. Jamais les auteurs juifs n'eussent trouvé ni ce ton, ni cette morale. Et l'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. Avec tout cela, ce même Évangile est plein de choses incroyables, des choses qui répugnent à la raison, et qu'il est impossible à tout homme sensé de concevoir ni d'admettre. Que faire au milieu de toutes ces contradictions? Être toujours circonspect, mon enfant. Respecter en silence ce qu'on ne saurait ni rejeter ni comprendre, et s'humilier devant le grand être qui seul sait la vérité.